c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on fait après les missions.
Mon papier n'est pas imprimé là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va. Allez, c'est parti.
Bienvenue dans notre Vivement ce soir qu'on se couche du vendredi 27 janvier. Au menu aujourd'hui, l'actu culturelle bien sûr, avec le cabaret cirque de demain soir au Petit Carré d'Art, avec les Molotov et le metteur en scène Michel Géniaud qui ont revisité une pièce de l'auteur latin Plot pour le meilleur et vous le verrez pour le pire aussi. Et quelques mots pour illustrer le thème de la causerie diaporama de dimanche, Aveyron, Algérie au temps des colonies, une histoire partagée. Mais après ce morceau choisi par Gabriel qui a assuré aujourd'hui la programmation musicale, Nous pencherons sur l'affaire qui agite Saint-Rome de Tarn, l'expulsion programmée du garagiste du village, Fernand Courdi, qui est à mes côtés. I've got that tune de Chinese Man, le morceau numéro 1 choisi par Gabriel. Et on va rentrer dans la chemise à rayures, une chemise à rayures très en colère aujourd'hui.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Demain matin à Saint-Rome-de-Tarn, il y aura une manifestation pour soutenir Fernand Courdy. Ici présente dans les studios de Radio Centrafrique, Fernand Courdy, qui est le garagiste de Saint-Rome-de-Tarn. Alors, vous êtes expulsé de vos locaux suite à une décision du tribunal de grande instance de Rodez. Est-ce que vous pouvez nous clarifier d'où vient ce litige qui vous oppose clairement, on peut le dire, à la municipalité de Saint-Rome-de-Tarn ?
Oui. Donc en fait, la mairie de Saint-Rome-de-Tarn a demandé mon expulsion, s'appuyant sur le fait que j'avais omis d'envoyer un courrier par recommandé un an avant la fin du terme du contrat crédit bail atelier relais. Donc l'oubli de ce courrier, c'est ce qu'a retenu le jugement en référé, et seulement l'oubli de ce courrier.
Donc c'est une procédure administrative, l'oubli d'une lettre envoyée qui vous a mené à l'expulsion.
Voilà, tout à fait, c'est ce qu'on appelle sur la forme. Forme date où en fait je devais envoyer donc au plus tard au 31 décembre 2009 un courrier par recommandé stipulant bien que je voulais être propriétaire du bien que j'avais payé.
Voilà. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est donc ce type de contrat que vous avez signé il y a plus de 15 ans avec la municipalité, c'est
oui.
ça
Oui, alors un atelier relais a été édifié pour tout simplement parce qu'il n'y avait pas de garagiste à Saint-Rome-de-Tarn. Et pour pérenniser cette activité, mettre toutes les chances du côté de l'artisan, la municipalité d'époque avait bâti donc un bâtiment. Et sur ce bâtiment, il y avait un emprunt. Et cet emprunt, c'était moi qui devais le rembourser. Donc le montant de 470 euros a été fixé mensuellement, chose que j'ai toujours honorée. Et donc aujourd'hui, ce local est payé totalement et il devait me revenir au 1er janvier 2011.
Sauf que donc il y a eu l'oubli d'un courrier. Alors, ce qui complique la situation, c'est qu'on nous parle d'une dette que vous auriez envers la municipalité. Ça brouille un peu les cartes pour comprendre le problème. Qu'est-ce que c'est cette histoire de dette ?
Oui, je pense que c'est une volonté de la municipalité de porter là-dessus la confusion. Car je crois que l'oubli de ce courrier, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas le comprendre, puisque verbalement j'avais levé l'option auprès de la municipalité. Ils savaient très bien que je souhaitais me porter acquéreur de cet atelier. Donc en fait, excusez-moi, répétez-moi votre question.
L'histoire de la dette, donc vous devriez des sous, et du coup ça se mêle à cette histoire de courrier oublié. Est-ce que vous pouvez clarifier ça peut-être ?
Oui, je vais rentrer dans cette confusion en essayant d'être clair et le plus bref possible. Donc en fait, j'ai géré la station de service municipale de 2006, de juin 2006 à juin 2009. J'ai rencontré des difficultés, j'en ai fait part auprès de la municipalité et je disais que leur précisais que j'avais bien du mal à honorer les loyers. Ils ont été d'accord pour un dialogue. Ce dialogue encore aujourd'hui, cette dette aujourd'hui, elle est toujours présente. Il faut savoir que on va rentrer dans cette confusion précisément pour justement bien comprendre la chose. Je vais essayer d'être clair. Voilà. Donc il s'agit de 10 000 euros. 10 000 euros de loyer impayé station-service. Il faut savoir que le 13 décembre 2010, j'ai demandé une réunion en mairie avec les intéressés et été convié le conseiller général. M'appuyant sur un précédent qui a eu lieu à Saint-Jean-du-Bruel, une affaire totalement similaire à la mienne, où il y avait un déficit de station-service et un garagiste bien embêté. À Saint-Jean-du-Bruel, la solution a été trouvée. Le conseil général a apporté une aide, une subvention de 10 000 euros pour régler le différend. Donc je demandais à Saint-Rome-de-Tarn si c'était possible pour moi. Et quelques jours après cette réunion, le conseil général m'a bien informé que oui, c'était possible et m'a précisé qu'il fallait que la mairie l'accepte. Cela m'a un peu surpris parce que l'accepter, je pensais que là on avait trouvé enfin un accord possible. Et la municipalité de Saint-Rome-de-Tarn, apparemment, ne souhaite pas prendre cet argent du conseil général.
Donc finalement, il y a deux histoires qui se croisent. C'est un peu ça.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, il y a M. Robert Sicard qui est aussi à nos côtés, qui fait partie du collectif de soutien à Fernand Courdi, puisque la population de Saint-Rome-de-Tarn se mobilise. Bonjour Robert Sicard.
Bonjour.
Alors, votre avis, comment vous avez réagi et comment ce collectif s'est monté?
Bon, d'abord, Fernand est un ami que je vois quasiment tous les jours. Et j'ai été amené à me rendre compte des difficultés qu'il rencontrait. Mais préalablement, je voudrais donner une précision par rapport à la question que vous avez posée à Fernand sur la station-service. La station-service était basée sur... la gérance était basée sur un contrat qui était nécessairement voué au déficit. Et qu'on pouvait attendre éventuellement de la mairie qu'elle revoie ce contrat parce qu'il s'appuyait sur une étude de marché qui datait de 6 ans avant la signature du contrat. À cette époque-là, il y avait les travaux du viaduc de Millau, l'essence était moins chère, il y avait un trafic très important, et donc cette étude de marché avait évalué, tu vas me donner des précisions par rapport à ça, s'il te plaît, oui, Fernand, 38, le volume
38 000 litres moins.
Et ça s'est retrouvé à l'usage réduit de moitié, même du tiers. Donc, n'importe quel gérant aurait été en difficulté et en déficit. Et il est dit ici et là, dans des textes, que dans ces situations-là, la municipalité a vocation à aider les entreprises en difficulté. Et d'ailleurs, ça a été rappelé dans un communiqué de presse par notre conseiller général et député, Alain Marc. Alors, si vous voulez bien me reposer une question pour revenir par rapport à ce que vous m'avez demandé.
Revenir sur la mobilisation de la population saint-romaise qui soutient visiblement Fernand Courdi.
D'abord, ça a démarré suite à un conseil municipal que nous avons appelé un conseil municipal pas très ordinaire du tout. Il était inscrit à ce conseil municipal un ordre du jour s'agissant de prendre une décision pour intenter une action en justice contre le garagiste Fernand Courdi. Donc plusieurs, nous sommes allés assister à ce conseil municipal et c'était extraordinaire de démocratie, c'était vraiment un modèle de démocratie car il n'y a eu aucun débat. Tous les votes ont été, se sont exprimés à l'unanimité comme un seul homme. Ensuite, il y avait une autre question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour. C'était la question de savoir si on acceptait les 10 000 euros proposés par le Conseil général ou pas. Ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour, je le répète, et ça a été voté, ça a été refusé à l'unanimité. À la suite donc de ce Conseil municipal, nous avons été très émus et nous avons eu la possibilité de nous exprimer, pas très facilement de la part du maire, puisque à la fin des délibérés, il nous a dit « je donne la parole au public, je donne la parole par déontologie ». Donc il n'avait pas tellement envie de nous donner la parole, mais il se trouve que à ce moment-là, parmi le public, se trouvaient présents le conseiller général et le député. Il était d'ailleurs à mes côtés. Donc, monsieur le maire ne pouvait pas ne pas donner la parole au public. Et quand on a pris la parole, en particulier moi, j'ai dit, vous venez de prendre là une décision qui risque d'avoir des conséquences dramatiques. Les mesurez-vous, pas de réaction. Ça nous a extrêmement émus, parce que mettre à la rue quelqu'un comme ça, père de famille, qui se retrouverait sans rien... ça, pour nous, était une question d'éthique, de morale. On a trouvé ça insupportable.
Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi une municipalité refuse l'aide du Conseil général pour maintenir un service, finalement, parce qu'une station-service dans un village comme Saint-Rome-de-Tarn, j'imagine que ça compte pour la vie du village.
Oui, bien sûr. Moi, je me suis vraiment interrogé, puisque ce conseil municipal, en date du mois de mai 2011... c'est là que j'apprends qu'on refuse l'aide. Il faut bien le comprendre. Ça, la dette, on refuse l'aide du conseil général. Je ne le savais pas jusque-là. Et il faut savoir qu'un mois auparavant, c'est-à-dire, alors, je reviens au mois d'avril 2011, j'avais reçu un courrier recommandé de la municipalité me demandant mon expulsion. C'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que tout a été bien orchestré et pour avec détermination pour me chasser.
Parce que cette station-service, là, aujourd'hui, elle est opérationnelle. Il y a un gérant qui a pris votre succession ou pas ?
Oui, il y a un gérant qui a pris ma succession. On lui a baissé le loyer de plus de 130 ou 150 euros. Et je peux dire, puisque j'y travaille en face, qu'aujourd'hui, elle connaît bien et bien des difficultés, j'en suis certain.
Par ailleurs, il faut noter qu'elle est en panne un jour sur deux. Et qu'elle est restée en panne pendant l'été, plus presque pendant la durée d'un mois, je crois.
Oui, je suis régulièrement sollicité pour dépanner des gens, car cette station ne fonctionne pas bien, il y a des problèmes techniques. Et bien évidemment, comme je suis juste à côté, on vient me demander de l'aide. Voilà, et le gérant n'étant pas sur place, il arrive fréquemment que cette station se retrouve en panne, voire plusieurs jours de suite.
Donc, si j'ai bien compris, il y a deux problèmes à régler. Finalement, c'est ce problème par rapport à l'atelier relais, cette lettre non envoyée qui conduit à votre expulsion prononcée par le tribunal de grande instance de Rodez le 10 février, donc tout prochainement. Et cette histoire de dette que vous devriez à la municipalité, qui a refusé l'aide du Conseil général. Et Alain Marc, alors là-dedans, il réagit comment ?
Bien, écoutez, Alain Marc, il est resté jusqu'à présent relativement discret sur la question. Mais on a bon espoir qu'il s'occupe et que peut-être aurait-il quelques clés pour régler le problème. J'ai dit bien peut-être.
Bon, écoutez, on peut peut-être rappeler la manifestation, l'horaire et le lieu demain matin. Robert, peut-être, Sicard ?
Alors la manifestation, on a appelé à manifester sur la place du Ravelin, demain samedi à 9h30, au pied de la statue de Monseigneur Denis Affre qui a été tué sur les barricades. Tout un symbole, donc.
Eh bien, écoutez, on vous remercie. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Moi, oui, si vous me permettez.
Oui.
Il m'est arrivé d'alerter à plusieurs reprises Monsieur le maire de la situation morale concernant Fernand Courdy. Nous avons estimé qu'il fallait porter assistance à une personne en danger. Ça n'a pas beaucoup ému, semble-t-il, Monsieur le maire. D'ailleurs, dans le dernier communiqué qu'il a publié, il a conclu son communiqué en disant « Tout cela n'est que verbiage irresponsable. » Et moi, de lui poser la question, et de la poser au public, de la poser sur la place publique, j'ai dit « Est-ce faire dans le verbiage irresponsable, est-ce irresponsable que de porter assistance à personne en danger ?» Et je crois là qu'il y a un problème éthique, un problème moral, et on ne comprend pas pourquoi le maire s'acharne autant alors qu'il y avait possiblement des solutions.
Bon, on va essayer de l'appeler, ce maire. On verra s'il nous répond. Fernand Courdy, Robert Sicard, merci. Et donc,
merci
demain matin, à 9h30, sous la statue de Monseigneur Affre à Saint-Rome de Tarn.
Ok, merci.
Au revoir.
Et on reste dans les manifs avec une action des parents d'élèves de Saint-Jean, Delnouze, Vabre, Rebourguil et certainement bien d'autres. Ils seront sur le marché demain à partir de 10h30 pour alerter la population sur les fermetures de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Dimanche, la FNACA de Saint-Rome-de-Cernon organise une causerie diaporama sur le thème « Aveyron, Algérie au temps des colonies, une histoire partagée ». L'occasion de réécouter Roger Lajoie-Mazinck au micro d'Elsa Gourmand.
En 1958, à l'âge de 22 ans, Roger Lajoie-Mazinck est appelé en Algérie. Il est affecté à Togourte, au Sahara, où avec ses compagnons d'armes, il est chargé d'assurer la protection des cuves de stockage de pétrole. À son retour d'Algérie, fin 1959, il s'engage dans le mouvement pour la paix, échappe à un attentat de l'OAS et contribue à installer la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, en Aveyron. Auteur de nombreux ouvrages, il va à la rencontre des élèves dans les collèges et lycées, raconter cette guerre qui ne voulait pas dire son nom, raconter son expérience de troupier et celle de ses compagnons. Une guerre dont il n'avait aucune idée quand il fut appelé. C'est c'était quoi le quotidien d'un soldat en Algérie?
C'était les tâches habituelles, bien sûr, qu'il y a dans tout régiment, mais c'était surtout les patrouilles, la garde du camp, et ensuite les patrouilles en ville et les patrouilles à la campagne avec les impondérables, c'est-à-dire les attentats, les attaques qu'il pouvait y avoir, les embuscades, et tout ce qui fait le côté particulier de cette guerre qui n'en était pas une officiellement.
Qui étaient les hommes qui étaient avec vous?
Alors moi, du fait de mon départ un peu bizarre, si je puis dire, je me suis retrouvé dans un régiment avec des garçons qui venaient peu de l'Aveyron, mais surtout de la Bretagne, et des garçons qui, pour certains, étaient souvent incultes. C'est ainsi que j'ai été amené à écrire beaucoup de lettres pour des camarades qui voulaient écrire à leur petite amie ou qui, simplement à leurs parents et qui ne savaient pas écrire, ou assez peu pour faire une lettre. Donc j'étais dans cet environnement-là et j'étais un petit peu leur dieu parce que j'étais capable de faire des choses. Et c'est ainsi que, par exemple, lorsqu'il y avait un décès, un de nos camarades tués, la hiérarchie me chargeait à moi d'écrire la lettre à la famille pour expliquer dans quelles conditions le camarade avait été tué.
Ça devait être difficile.
Ce n'était pas réjouissant, ce n'est pas facile, mais bon, je l'ai fait. Quelquefois, je n'ai même pas assisté à, si ce n'était pas ma patrouille, je n'ai même pas assisté à la mort, quoi.
Quel rapport est-ce que vous aviez avec la population algérienne?
Mais les rapports étaient différents. C'était selon. On avait de bons rapports avec la population, si l'on peut dire, mais on avait de mauvais rapports aussi dans la mesure où dans la population pouvait se cacher de certains de nos adversaires et où la population pouvait également protéger certains de nos adversaires. Donc il faut savoir qu'on était bien reçu, mais on pouvait également être très mal reçu. Donc on pouvait être tombé dans une embuscade, dans un attentat, et ça ne prévenait pas, on ne savait pas exactement ce qui nous attendait. Donc il fallait être très prudent, très vigilant, et donc on avait un sentiment mitigé.
Vous avez eu à vous battre
Oui, bien sûr, oui, comme pratiquement tout le monde là-bas, puisque je vous dis, la guerre était à tous les coins de rue, à tous les coins de palmeraie, à tous les coins de sous tous les pitons et un peu partout. Donc ça ne prévenait pas. L'autre jour, je faisais une causerie pour des lycéens et la question qu'ils m'ont posée, c'était de savoir s'il y avait des tranchées. Ils étaient marqués par la guerre de 14-18. Chez nous, il n'y avait pas de tranchées. C'était la guerre à découvert, puisque c'était du cache-cache permanent et du guet-apens en permanence.
On parle d'une embuscade. On parle de coups de feu et on explique qu'une voiture est tombée entre les mains des Fels. La voiture a été retrouvée avec deux gendarmes égorgés. Le médecin n'était pas dans la Jeep. Quelques jours plus tard, il y a ce corps qu'on trouve pas très loin de là où, le même jour, seulement quelques heures plus tôt, on avait retrouvé des poteaux télégraphiques sciés. Ils se disent « c'est pour ça que les Fels ont fait tomber les poteaux télégraphiques ». Parce qu'ils savaient que quelqu'un viendrait les réparer et alors trouverait le corps avant qu'il ne soit dévoré par les bêtes, les chacals, les chiens errants, avant que le soleil n'ait fini de le ravager, de le brûler, de le rendre méconnaissable, pour qu'il soit suffisamment intact encore, on pourrait dire lisible, oui. Pour que chacun comprenne bien ce qui a été dit ici, ce qui se dit à travers lui. C'est pour ça que les Fels avaient scié les poteaux, pour qu'on revienne ici et qu'eux puissent laisser un cadavre sans risque d'être pris ou repéré, sans personne aux alentours.
Extrait du roman de Laurent Mauvignier, Des hommes.
Mauvignier a très bien recueilli ce que son oncle, puisque je crois que c'est le récit de son oncle ou de son père, en tout cas de son oncle, qui a fait la guerre d'Algérie, contrairement à lui qui ne l'a pas faite, bien entendu, s'il était trop jeune, a fait un récit assez fidèle, mais il n'a retenu que les phases dures. Il y a eu plus que ça en Algérie, il n'y a pas uniquement de la bagarre, de la torture, il y a eu également des scènes de fraternité, et nous avons eu là-bas des actions généreuses. Je pense à la scolarisation, je pense à l'assistance médicale. Donc il n'y a pas eu que ce qu'on retient essentiellement aujourd'hui, et en nous mettant sur le dos souvent des scènes de torture dont nous ne sommes absolument pas responsables, ni les auteurs. Nous avions une division spéciale qui s'appelait la division opérationnelle de protection, un joli nom pour camoufler ce que c'était, la DOP, D-O-P, donc était chargée des tortures. Alors bon, évidemment, nous faisions des prisonniers, et ces prisonniers étaient remis à cette fameuse DOP, donc nous étions les témoins de ce qui se passait, mais nous n'en étions pas les acteurs.
Quel regard est-ce que vous portiez sur cette guerre au moment où vous la viviez?
C'était difficile parce qu'on n'avait pas du tout été préparé, on n'avait eu aucune formation sur la guerre elle-même, quoi. Sinon dans les classes, quelques formations pour le maniement de l'arme, la préparation au combat, mais aucune information sur le pourquoi de cette guerre et le comment de cette guerre. Donc chacun l'a pu la vivre différemment. Vous voyez, l'autre jour j'ai rencontré un officier qui m'a dit « moi je ne peux pas dire que j'ai fait la guerre d'Algérie ». Je lui ai dit « pourquoi ?». Il me dit, parce que j'étais en aviation. J'ai dit, mais que faisiez-vous dans l'aviation? Il me dit, ben, on volait et on balançait du napalm sur les villages. Donc, il n'a pas fait la guerre d'Algérie.
Et d'un point de vue politique, comment vous vous situiez
Je n'avais pas d'engagement politique à l'époque, sinon que j'étais déjà de sensibilité de gauche, bien entendu. Et donc, j'avais un regard assez critique par rapport au gouvernement socialiste, d'abord, qui nous avait envoyé là-bas, qui avait mis les gros moyens pour cette guerre d'Algérie en prenant le maintien de la France en Algérie, ce colonialisme persistant, là, alors qu'on venait d'abandonner l'Indochine. Et puis par la suite, un regard critique également pour le général de Gaulle, qui avait son double langage, en nous faisant croire à une Algérie française alors qu'il préparait l'indépendance, et le savait. Je pense que celui qui a été un petit peu le déclencheur de la vérité dans cette opération, c'est sûrement Michel Rocard, qui avait fait un rapport sur la question et qui avait dénoncé pas mal de choses, mais on n'en avait pas tenu compte ouvertement.
Vous êtes revenu en 1959. Comment s'est passé votre retour ?
Mon retour, moi, il faut savoir que je me suis marié pendant la guerre d'Algérie. Je vous disais qu'on avait une seule permission pendant les 2 ans. Et donc, j'ai trouvé l'astuce, j'étais fiancé, j'ai trouvé l'astuce de me marier avant la fin de mon séjour en Algérie, c'est-à-dire en septembre, pour bénéficier d'une permission d'une semaine, une permission supplémentaire, donc, ce qui m'a fait une coupure. Et je suis donc rentré en fin d'année 59, marié, donc, et tout de suite appelé à prendre la tête d'une famille, bien entendu. Donc, mon retour a été d'installation. Je suis allé à ce moment-là affecté à Mende, en Lozère, donc d'installation à Mende, où j'ai essayé de mobiliser un petit peu pour créer quelque chose pour les soldats, puisque la guerre n'était pas finie. Je voyais arriver les corps de nos camarades qui étaient tués là-bas, alors que moi, j'étais déjà rentré. Et donc, j'ai pas réussi à mettre en place quelque chose qui aurait pu fédérer ces anciens soldats, alors que l'AFNACA existait déjà à cette époque-là, puisque l'AFNACA a été créée en 1958, donc bien avant l'affaire de la guerre d'Algérie, et nous étions là en 1959-1960, puisque je suis rentré fin 59 en 60, donc je n'ai pas pu arriver à fédérer à ce moment-là pour créer cette association au niveau de la Lozère.
Et est-ce que vous avez pu parler de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez vu en Algérie? Est-ce qu'on vous écoutait? Est-ce qu'on vous entendait?
On n'en parlait pas très peu, on ne nous questionnait pas, on ne nous posait pas de questions, nous ne parlions pas. Alors moi, j'ai trouvé le biais par le mouvement de la paix, c'était une association donc, qui m'a permis un petit peu de m'exprimer et surtout de me faire entendre et surtout d'avoir des réactions autres que la mienne, puisque dans le mouvement de la paix s'exprimait beaucoup de courants et beaucoup de choses. Hein. Et donc, à travers le mouvement de la paix, j'ai réussi quand même à parler et à écouter. Et donc, je me suis retrouvé notamment à un congrès national du mouvement de la paix, où d'ailleurs, nous avons été victimes à l'entrée de la salle d'un attentat OAS qui a fait parmi nous 3 morts et 50 blessés. Et qui a appelé une très grosse manifestation dans les rues d'ici des Moulineaux. Et donc, c'est un choc quand même, et puis c'est une prise de conscience supplémentaire par rapport à l'OAS, puisque c'est l'OAS, évidemment, qui était à l'auteur de cet attentat.
Je voudrais revenir au retour des appelés en France. Est-ce qu'il y a quand même eu des gens traumatisés par cette guerre? Est-ce qu'on a entendu leur douleur, leur souffrance en France?
Très peu. Je prends l'exemple personnel que j'ai cité dans un de mes livres. Je ne sais pas si c'est dans la guerre de là-bas ou dans cette guerre inachevée. Moi, vivant dans une cité qui était la cité des 4 saisons, à Rodez, on est le château, donc j'ai un garçon qui venait tous les soirs à la tombée de la nuit chez moi, frapper à la porte, en me disant, écoute, il faut que tu fasses quelque chose, je suis poursuivi, j'ai même entendu un bruit de culasse dans mon dos. Ce garçon était rentré depuis déjà quelques semaines, quelques mois, il avait encore l'impression qu'il était en Algérie avec une menace permanente, et donc il venait demander ma protection, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment faire quelque chose, et donc j'ai pris l'initiative de m'engager à l'AFNACA, et puis nous avons créé des comités, j'étais président du comité de Rodez, et j'ai mis en place donc à Rodez une commission juridique et médicale qui permettait donc de faire des permanences et d'accueillir des garçons qui étaient en détresse, qui avaient des problèmes, pour essayer de constituer des dossiers de demande de pension et des demandes d'aide s'il en était besoin.
Roger Lajoie-Mazenc, que vous pourrez rencontrer dimanche après-midi à la salle des fêtes de Saint-Rome de Cernon à 15h pour la causerie Diaporama, Aveyron, Algérie, au temps des colonies, une histoire partagée. Et bien après cette chemise à rayures, on peut le dire, il y en a vraiment, vraiment marre.
On a la main. des journalistes assassinés, parce que des présidents assassins, des généraux aux commandes, des populations opprimées, les aides aux pays détournés, des populations affamées, les fonds du pays dilapidés, les droits de l'homme ignorés. On en a marre. L'abolition de l'esclavage, ils ont créé la colonisation. Lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération. Pour monter dans cette situation, ils ont créé la mondialisation. Et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylon qui nous exploite. On en a marre, l'Afrique en a marre.
Stiggy danda, ouais, stoppons les guerres, on a trois faillas, surtout les chefs d'État qui nous envoient chez nos bradas. Ils ne nous respectent pas, c'est la même chose pour leur loi. Ils ne regardent même pas ton peuple réclame ses droits. Ils ne partagent surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos six statuts, femmes pour vivre dans ce monde-là.
Des généraux aux commandes,
on n'en veut plus.
Des enfants militaires,
on n'en veut plus.
Des orphelins de guerre,
on n'en veut plus.
On en a marre, l'Afrique en a marre. On en a marre, le peuple en a marre. L'Afrique en a marre,
c'est machination.
Mon peuple en a marre.
Il y en a marre de Tikenja Fakoli, c'est Gabriel qui a fait ce choix et tu ne peux pas savoir comme ce choix convient tout à fait à la situation. Gabriel, merci. Demain soir, les Barrés du Carré vous invitent à leur troisième cabaret cirque au Petit Carré d'Art de Sainte-Afrique. Monsieur Loyal nous a fait le plaisir de passer en studio pour nous donner une petite idée de ce qui nous attend demain soir.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ladies and Gentlemen, vous qui avez raté Pinder lors de sa venue à Sainte-Afrique, vous pourrez vous rattraper le samedi 28 janvier au Petit Carré d'Art avec des artistes en tout genre, des acrobates, des jongleurs et des illuminés qui vous feront rêver tout au long de cette soirée avec un monsieur loyal déjanté, messieurs, dames. N'hésitez pas à réserver vos places à l'office de tourisme, 12 euros plein tarif, 10 euros réduit et 8 euros pour les enfants. Alors n'hésitez plus, cette soirée est organisée par Polisson, l'association diabolique, messieurs, dames. À vos marques, c'est parti, réservé et à samedi.
La compagnie Théâtre Molotov est dans nos studios, elle prend un abonnement, elle n'est pas au complet, il n'y a que Sarah aujourd'hui. Bonjour Sarah.
Salut.
Aujourd'hui, en compagnie de Michel Géniaud pour nous parler d'un nouveau projet à Oulala...
Aouloularia.
Aouloularia, ça va mieux. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, cette pièce donc de plot, un petit peu étonnant de voir que les Molotov ont joué cette pièce-là. Qui a fait le choix de cette pièce ?
C'est un petit peu bizarre parce que c'est une commande. C'est pas souvent que je travaille sur commande. Il s'agissait d'une série de représentations qui devait avoir lieu à Sagunto en Espagne pour un festival sur le théâtre antique. Donc je suis allé voir les lieux, c'était très impressionnant à Sagunto, un grand théâtre, 2000 places. Voilà, mais il y avait une particularité pour ce festival, il fallait une compagnie qui puisse dire le texte en latin. Alors j'ai pensé, d'accord.
Vous avez pensé au Molotov.
J'ai pensé au Molotov, voilà.
Qui parle latin, donc ça,
mais bien sûr. Mais
ah
bien
oui,
sûr.
On parle couramment, les bords de Seine, tout est en latin. C'est une langue normale pour nous.
Ah, prochaine fois, on fera l'interview en latin.
Bien sûr. Dire.
Et donc ?
Voilà, donc on est parti. Donc j'ai choisi la marmite de Plot, Aouloularia.
C'est plus facile à dire.
Voilà. Donc cette marmite dont Molière, quelques siècles plus tard, s'est inspiré pour écrire l'Avare. Le choix de ce texte m'a intéressé parce que... je vois pas beaucoup de différence entre cette époque, les problématiques de cette époque et la nôtre. On était, disons, dans un monde où on passait d'une république à un empire, et un peu plus tard un empire décadent, avec deux grandes classes sociales inégales. C'est-à-dire la classe des riches, le capital, et puis une sous-classe, même terrifiante à cette époque-là, la sous-classe des esclaves et des femmes. Donc ça m'interrogeait bien par rapport à notre époque, où les classes du milieu tendent à disparaître, où les écarts sont de plus en plus grands, quoi, et où la problématique principale... c'est l'argent. Voilà, ça m'a interrogé. Donc j'ai fait ce choix.
Alors Sarah, quand Michel, j'imagine, Géniaud vous a proposé ce projet, vous avez réagi comment ?
Ah ben, nous, on était très contents. Et puis, ça nous a vraiment intéressés en plus parce que juste avant, enfin, quelques temps avant, on avait travaillé avec lui sur la Commedia dell'arte. On avait monté MacToff avec lui. Et donc là, on revenait voilà, encore plus aux bases, et on allait travailler des gros personnages. On allait travailler dans le burlesque. Et en plus de ça, ce choix de texte, ça nous parlait. Parce que c'est des choses qui nous taraudent. C'était important pour nous, et ça a été vraiment chouette de se retrouver avec un texte qui nous parle encore aujourd'hui, où les choses qui sont dites sont importantes, et où l'horreur est présente. Donc, c'est un choix tout à fait Molotov qui a été fait, finalement. Enfin...
Tout à fait. Oui, c'est ça. Et la difficulté que pouvait représenter la présence de la langue, du latin, n'a plus du tout... assez rapidement, n'a plus du tout été une difficulté. Le latin... quatre siècles avant Jésus-Christ, c'était une espèce de langue vulgaire, hein, c'était la langue de la vulgaire, la langue de tous les jours. Donc le pari, pour moi, était de comment rendre cette langue ordinaire, voire même grossière, grotesque, alors qu'elle n'est étudiée qu'en université ou que dans des cercles très, très férus de culture classique. Alors, voilà, donc le pari, c'était ça. Comment rendre cette pièce sale, quoi, vulgaire.
Alors vous l'avez vraiment dite en latin.
Ah oui, oui.
Oui, oui, oui. Oui. C'est en latin, oui.
Oui, oui.
Et alors, ma question, vous l'avez donc joué à Sagunto, c'est bien ça?
Oui, on l'a joué à Sagunto. On avait 9 représentations de prévues dans des lieux immenses, hein, devant 2000 personnes à chaque fois. Et on n'en a fait qu'une parce qu'on s'est fait virer, quoi. Voilà.
Pourquoi?
Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. On n'attendait pas ça de nous. On a touché... On a touché aux images des représentations classiques. On a touché à des images, quoi. C'est très à la mode, là, en ce moment. Quand on touche à des images, ça ne plaît pas. C'est comme si, en France, on touchait au Puy du Fou, à des grandes...
Vous avez désacralisé un mythe ou...
Non, on n'a pas désacralisé. C'est-à-dire que c'était un vrai retour. Pour nous, le travail a consisté à se poser la question, qu'est-ce qu'était vraiment 4 siècles avant Jésus-Christ, entre 4 siècles avant et 2 siècles après, une représentation théâtrale à Rome ou chez les Romains. Sachant que dès le 17e, tout a été, toutes les images... toutes les images difficiles à voir ont été supprimées. On ne montrait plus sur scène le sang, les meurtres déjà. Le 19e a aromatisé le théâtre romain. Et puis après, il y a eu Hollywood. Et là, on a eu... L'éducation nationale même est imprégnée de l'image romaine via le regard hollywoodien.
Hein. Avec voilà. Les péplums. Et du coup, oui. C'est dur, ça, quand même, j'imagine, de se faire virer comme ça.
Ah, mais c'était très, très dur. Très, très dur. On a eu 5 minutes pour quitter la salle. Voilà. Alors que le spectacle a hyper bien fonctionné. C'est-à-dire, c'était un vrai spectacle romain. C'est-à-dire que les gens gueulaient, hurlaient, ils voulaient qu'on sorte de scène, et d'autres applaudissaient. Non, il faut qu'ils restent.
Voilà, c'est les organisateurs qui ont baissé le pouce dire...
Les organisateurs, eux, ils n'étaient pas contents, quoi. Vraiment pas du tout. Ce n'était pas du tout ça qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on arrive avec des toges romaines, voilà.
Ce n'était pas le cas.
Non. Il n'y a que nous qui n'étions pas en romain.
Bon, du coup, vous allez retenter l'histoire à Millau, donc jeudi prochain, le jeudi 2 février, à la Maison du Peuple. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Michel Géniaud et Sarah Carlini de Compagnie Théâtre Molotov.
Nous, on est content que la ville de Millau nous ait permis de, malgré tout ce que ça a déclenché, ça a déclenché quand même des polémiques et tout ça. On est content que la ville de Millau nous ait laissé la Maison du Peuple pour retenter cette expérience-là.
Alors, voilà. J'ai une question quand même qui est inévitable. Les spectateurs, comment ils font pour comprendre si vous dites le texte en latin?
Ah, mais il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, on est parti sur les principes, je dis les principes hein, de comédia, où la notion de langue était présente. En comédia, aucun des acteurs sur un plateau ne parlait la même langue. Et les gens à qui ils s'adressaient ne comprenaient pas forcément. Donc tout est en gestuel, en grotesque, en force. Il y a même pas cette notion, est-ce qu'on va comprendre ou pas comprendre? On comprend. La preuve, c'est que après l'abandon de cette tournée espagnole, je me suis dit, bon, puisqu'on va peut-être, on va le retourner en France, peut-être qu'on maintenant on va dire le texte en français. Mais c'est ridicule. C'est ridicule, c'est tellement bien, mais tellement bien en latin. C'est vraiment le panard hein, de faire cette pièce en latin.
Sarah, ouais, en latin, c'est la première fois ou tu as déjà tenté l'expérience?
Pour nous tous, c'était la première fois, en tout cas en latin. Après, on avait déjà expérimenté le travail sur des langues qu'on ne connaissait pas, parce que quand on était parti en tournée, on s'était retrouvé à mettre du bosniaque. Et on ne parle pas bosniaque, mais bon, on a appris cette musique des mots. Et ça a été un peu le même mécanisme avec le latin. Et puis la musique du corps, la musique des mots, tout qui s'associe. Donc c'est chouette. Et puis comme dit Michel, de toute manière, c'est tellement visuel, tellement corporel. Le latin rajoute, mais on n'a pas... Tout se comprend. Tout est lisible.
Oui, même le petit détail, hein, y a le moindre mot est compréhensible. Puis on a vu l'expérience aussi avec, avec Jacques Cohen, qui, nous avait, qui était le prof d'espagnol avec lequel on travaillait, qui nous avait embarqué dans des projets en Amérique du Sud. Et donc on est habitué sur le bilingue. Voilà. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a branchés sur ce... sur ce coup.
Alors, il faut se préparer donc jeudi prochain à la Maison du Peuple à Millau, à Oulularia. J'y suis arrivée, signé plot et mise en scène par Michel Géniaud, avec la compagnie Théâtre Molotov. Merci à vous deux.
Merci.
Bon spectacle. Et on devait avoir une petite chanson de Rage Against the Machine pour finir cette émission, mais on a un peu débordé sur le temps. Je suis désolée, Gabriel, on le repassera en ton hommage dans une prochaine émission. Vivement ce soir qu'on se couche du vendredi 27 janvier, c'est donc terminé. Et on ne se retrouve pas lundi, puisque je vous rappelle que la semaine prochaine, nous mettons l'émission en pause. Vous retrouverez quand même les tontons flingueurs jeudi matin à 10h. Merci à Chloé à la technique, à Elsa Gourmand pour l'interview, et puis merci à Gabriel pour la programmation de l'émission du jour. On lui souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Lui qui est jeune et plein d'enthousiasme, ce fut un plaisir de t'avoir à nos côtés. Et avant de se quitter, Lionel, un petit message à vous faire passer.
Le travelling sonore de la prochaine Bass Travel nous mènera de Charib dans Scylla, du rub-a-dub jamaïcain à un sound system brestois, du world jazz indien au blues touareg, de la tropical pop au son de la médina, et pour le dessert, de la dubstep sauce française ou anglaise à la tech house progressive d'un label marseillais. Alors rejoignez-nous sur les ondes de Radio Saint-Af pour de nouvelles explorations musicales.
Bass Travel de Lionel, prochaine émission demain matin à 11h et lundi à 21h. Bonne journée, bye!